Bonjour à tous, bonjour Daniel Siboni.
Bonjour.
Vous êtes psychanalyste, vous êtes un fin connaisseur, un lecteur averti des textes de la tradition musulmane. Vous avez grandi en terre musulmane, vous avez vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 13 ans. L'arabe, c'est même votre première langue. Et vous avez publié récemment un livre qui s'appelle « Islam, Israël, Occident, le grand malentendu ». Alors, à l'heure où nous enregistrons cette émission, nous sommes moins d'un mois après les attentats du 13 novembre qui ont ensanglanté Paris. Et comme après les attentats de janvier, on a l'impression d'être pris en étau entre deux discours. On a d'un côté ceux qui répètent presque comme un mantra qu'il faut éviter les amalgames, que tout cela n'a rien à voir avec la religion et encore moins avec l'islam. Et d'un autre côté, on a ceux qui vous disent au contraire, à l'extrême opposé, que c'est là le visage authentique, le plus vrai de l'islam, cette violence radicale. Alors qu'est-ce qu'il en est, selon vous ?
Ben, je pourrais dire tous les deux ont raison et tous les deux ont tort. Parce que je pense qu'avec l'actualité, on apprend beaucoup plus de choses que les théories et que ce qu'on savait. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, et ce qui... moi, m'impressionne le plus, c'est la pesanteur des discours, le cramponnement des discours, qui est peut-être plus nocif, plus dangereux que les attentats eux-mêmes, qui sont déjà meurtriers. Mais quand il y a des discours qui meurtrissent, qui mortifient, c'est grave. Et je pense que ça vaut la peine, ça vaudrait la peine d'essayer d'ouvrir un peu la pensée, d'ouvrir la façon d'être dans cette situation, de respirer et de ne pas se nourrir avec des cachets de telle ou telle idéologie.
Alors comment est-ce qu'on peut respirer ?
Eh bien justement, en essayant, vous savez, la pensée juive, la tradition, la transmission juive, le principe c'est se tenir devant l'être. La Amod Lifnei Hashem, devant le nom. Le nom, c'est-à-dire l'infini des possibles. Il faut toujours voir plus de possible que ce qui apparaît. Il ne faut pas se mettre la tête dans le sable ou dans une idée. Alors reprenons ceux qui disent ça n'a rien à voir avec l'islam. Bien sûr qu'ils ont tort, parce que c'est évident, c'est criant que partout où il y a du terrorisme, des massacres, etc., l'islam est en jeu. C'est évident. Et en même temps, moi je me dis que parmi eux, beaucoup de gens, de musulmans, sont vraiment de bonne foi et découvrent ce qu'ils ne savaient pas, à savoir que l'islam contient une violence radicale envers l'autre. Juifs, chrétiens, non-musulmans. Ils le découvrent.
Mais ça, ce serait inhérent à l'islam.
Ah ben, que ce soit inhérent à l'islam, que ce soit présent dans le corpus fondateur de l'islam, ça, je peux vous le garantir. Et il y a très peu de versets qui viennent équilibrer cette position. On cite souvent un verset qui dit « Ceux qui pratiquent le judaïsme, qui croient au jour dernier, qui croient en Allah, etc., ne seront pas inquiétés. » Mais quand vous lisez bien le verset, vous entendez, il faut qu'ils croient en Allah. Et on ne peut pas croire en Allah si on ne croit pas en son prophète, donc si on n'est pas musulman. Puis ceux qui pratiquent le judaïsme, qui juge qu'ils pratiquent bien le judaïsme ? C'est l'autorité musulmane qui donc juge que ce n'est pas des bons pratiquants du judaïsme, donc il faut les taper.
Mais là, on pourra vous rétorquer qu'il y a nombre de textes dans la Torah tout autant violents envers les infidèles, les païens.
Pas du tout. Les textes de la Torah sont très violents envers les juifs. Les autres peuples sont très loin, sont des instruments de Dieu quand ils ravagent Jérusalem, quand ils persécutent les juifs, etc. C'est très loin. On ne s'intéresse pas suffisamment aux autres pour leur taper dessus.
C'est ce qu'on nous reproche d'ailleurs, cette absence de prosélytisme.
Peut-être, c'est un autre sujet. Donc ouais. Je reprends. Pour l'islam, c'est évident qu'il y a cette violence envers les autres. Mais en même temps, ceux qui disent « c'est pas ça l'islam », etc., ce n'est pas forcément des menteurs, je m'explique. Imaginez-vous, voilà, vous découvrez que dans vos textes fondateurs, il y a une violence totale envers l'autre. Vous dites, c'est pas possible, vous êtes même traumatisé. Donc, vous essayez de construire quelque chose, chacun se fait son petit islam à soi. peinard, tranquille, la charité, la prière, l'amitié, l'hospitalité, etc. Des choses comme ça, les cinq piliers. Hein. Et puis on arrête, basta. Or, c'est tout, chaque fois contredit par la réalité. Mais ça ne fait rien. Vous imaginez, si on avait 1,5 milliard de musulmans sur le dos, ce serait angoissant. Mais ce serait aussi angoissant pour eux d'être contre tout le monde. Donc, il y a quelque chose à entendre dans cet effort que font certains pour dire, c'est pas ça l'islam. En réalité, ils formulent un vœu. Je ne voudrais pas que ce soit ça, l'islam. C'est leur façon de le dire. Et je crois qu'il faut l'entendre aussi comme ça et établir avec eux du lien, du contact, du dialogue, en tout cas ne pas les percevoir automatiquement comme des ennemis, comme des tueurs. Même si, dans la réalité, il faut savoir que tous ceux qui passent à l'acte violent, étaient d'abord des modérés. Vous comprenez? D'ailleurs, quand on interviewe les gens, alors qu'est-ce que vous pensez? Ce jeune homme, ah ben, c'était un type très calme, très courtois, etc. Puis un beau jour, il est tombé sur le texte, ou le texte lui est tombé dessus, il a flambé, et puis il s'est dit, mince, on est dans un mouvement de renouvellement de l'islam par ses racines.
Donc vous dites cette violence, elle est dans les racines de l'islam.
Mais bien sûr, mais ça c'est évident, il n'y a pas, c'est pas une insulte, c'est un constat.
C'est pas une déviance
Non, ce
contemporaine.
qui n'aime pas du tout, ce qui est merveilleux, c'est qu'avec toutes ces racines violentes contre l'autre, et j'ai mon idée sur pourquoi cette violence contre l'autre, pourquoi elle est constitutive, mais avec ces racines aussi violentes, on ne peut que admirer les peuples musulmans d'avoir été aussi modérés au cours de l'histoire. Bien sûr, ils ont massacré des gens. Les Juifs dans les terres arabes ont subi aussi beaucoup de ravages. Mais il n'y a pas eu la mise en acte de ces racines. Pourquoi? C'est l'aspect nouveau aujourd'hui, c'est que l'islam, tant qu'il est dans lui-même, dans sa sphère, dans son espace, il est très calme. Il n'a pas besoin d'exprimer, sauf sur des minorités qu'il persécute, mais c'est en passant, qu'il persécute et qu'il protège pour pouvoir les rançonner. Mais sinon, c'est plutôt calme.
C'est véritablement une religion de la paix, une fois que la paix est établie.
Voilà, dans son espace islamique, islam veut dire, la racine veut dire aussi paix, veut dire beaucoup d'autres choses, renoncement, soumission, musulman, mais dans son espace propre, il est très paisible. C'est quand il est en contact avec l'autre, l'altérité, que là, les racines s'activent pour deux raisons. Parce que d'abord, si il convoite de vivre comme l'autre, ce qui est le cas de beaucoup de musulmans sont venus en Europe pour vivre à l'européenne, point à la ligne. Mais à partir d'un certain moment, ils sont rappelés par les racines et par les principes, et menacés d'être accusés de traître. Et d'autre part, eux-mêmes, dans le vécu, à un moment donné, quand tout est paisible, ils se disent, mais alors qu'est-ce qui nous distingue? Donc il faut un trait distinctif. Et
Donc il faut relancer l'expansion.
le marqueur distinctif, c'est de dire, l'autre est pourri, etc., comme le dit notre texte. Ce qu'il y a aussi d'intéressant, et ça donne lieu à une propagande incroyable aujourd'hui, c'est à laquelle des non-musulmans sont très sensibles, curieusement. J'entendais l'autre jour un ami, un médecin, un juif, qui me dit, oui, c'est vrai, ces attentats, c'est horrible, mais ils révèlent que nous autres, occidentaux, nous n'avons plus de valeur, nous sommes complètement dissous, nous n'avons pas d'existence, etc. Et là, je dis, attention, attention, l'occidental, dire il n'a pas de valeur, c'est un nul, etc. De quelle place, à quelle place on se met pour dire ça? Les occidentaux, ils mènent chacun leur aventure spirituelle, individuellement ou en groupe, avec ou sans religion, et prétendre que c'est l'islam qui va leur apporter l'armature spirituelle qui manque, Là, c'est assez grave.
Est-ce qu'on n'a pas l'impression que l'Occident est engourdi, qu'il somnole? Je veux dire, à chaque fois qu'il y a un attentat, tout le monde se réveille, il y a un sursaut national, ça dure quelques jours, quelques semaines, jusqu'au suivant, et entre les deux, on a l'impression qu'il y a une somnolence de l'Occident, alors qu'on sait très bien que la menace, elle est ancienne, elle est permanente et elle est grandissante. Comment est-ce qu'on explique cet
Alors,
engourdissement?
vous savez, j'ai fait un livre avant qui s'appelle Islam, phobie, culpabilité. Et je montre que l'Occident cultive une espèce d'attitude coupable. Souvenez-vous, dans les attentats précédents, tout de suite, il y a des plateaux télé où on dit c'est de notre faute.
Ça, c'est la dimension chrétienne, alors, vous voulez
Oui,
dire.
chrétienne et, à mon avis, pseudo-chrétienne, c'est-à-dire qui va dans le sens de c'est de notre faute. C'est une façon, je dis, perverse de croire qu'on va prendre le pouvoir. Sur les gens en paraissant fautifs, en paraissant coupables, en paraissant d'un plus haut niveau spirituel, ce qui est assez factice, c'est pas sérieux. Mais le vrai problème, c'est que la France et l'Europe, ils ont des lois. Ils ont des lois, mais qu'ils n'osent pas appliquer.
Mais là encore, c'est quelque chose de nouveau, cette faiblesse, cette timidité occidentale. Je veux dire, pendant quasiment 2 millénaires, l'Occident s'est pas empêché d'imposer sa loi partout,
Peut-être parce
jusqu'à
que
assez récemment, la colonisation. Qu'est-ce qui se
peut-être
passe? Pourquoi est-ce que tout d'un coup il y a cette...
peut-être parce que lui aussi, l'Occident, il a sa culpabilité
Ah voilà.
intrinsèque envers l'autre. Peut-être qu'en effet, il supporte pas l'autre, lui aussi,
Donc ce sont
et
deux
que
jeux de culpabilité qui se neutralisent.
oui, mais sauf que du côté islam, c'est pas de la culpabilité, c'est de la conquête.
Oui, mais il culpabilise l'autre.
Voilà, l'un culpabilise l'autre et
Et l'autre
l'autre ne demande que
s'auto-culpabilise.
ça.
D'accord. Et les Juifs au milieu de tout ça?
Les Juifs, justement, à mon avis, ils sont aux avant-postes. Ça veut dire que les Juifs, ils ont devancé la France dans la situation actuelle. Des Français peuvent dire, tiens, on comprend ce qui se passe en Israël. Je vais vous donner un exemple. Et appliquer les lois, c'est pas débouler chez les gens et les arrêter comme ça, sans preuve. Parce que ça, c'est contraire à la Constitution, c'est contraire à la loi. En revanche, qu'est-ce qui empêche la France, par exemple, les pays européens, de poser que on interdit les discours qui appellent à la haine, même s'ils sont enrobés de religion? Là, ça devient intéressant.
C'est
Parce que
interdit par la loi.
ben,
Ça s'appelle l'incitation à la haine.
la loi interdit l'incitation à la haine. Mais on enrobe, dans mon livre, je donne un exemple. Il y a un imam qui disait, il faut battre sa femme si on la soupçonne. Il y a un groupe de femmes qui ont fait un procès à l'imam. Et elles ont perdu. Parce que le juge, en bon esprit universel, comme ça, a dit, mais c'était, en bon esprit laïque, au sens borné du terme, a dit, ce monsieur ne faisait qu'expliquer un texte religieux. Donc il explique un texte religieux à des enthousiastes de ce texte, leur transmettant que il faut battre sa femme si, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il suffit d'enrober de religion un discours de haine pour qu'il passe. C'est pas possible. Donc, cette situation devra amener, tôt ou tard, les penseurs ici, les publicistes, les gens qui réfléchissent, les gens tout court, car tout le monde réfléchit, à remettre en question des critères qui leur paraissaient, voilà, sacro-saints. Par exemple, on ne touche pas aux religions. Eh bien sûr, on ne touche pas, on ne va pas persécuter les religions, mais il faut aller voir ce qu'ils racontent. Et si ils racontent des discours de haine, ben il faut dire non, excusez-moi, c'est contraire au vivre ensemble. C'est là que le vivre ensemble peut devenir un instrument, une référence positive, vivante. Vous voulez qu'on vive ensemble? Est-ce que c'est dans le mensonge, dans le déni, ou est-ce que c'est avec un petit peu de vérité?
Alors j'aimerais qu'on revienne à un point que vous avez évoqué tout à l'heure. C'est celui de la façon dont le monde musulman voit les juifs aujourd'hui. Et là, il y a aussi quelque chose de relativement nouveau qui est apparu, c'est que il est de notoriété commune que très longtemps, les juifs ont quand même mieux vécu en terre d'islam qu'en terre de chrétienté. Certes, ils étaient considérés comme des citoyens de seconde zone, régulièrement, on assiste à des pogroms, des pillages, mais il n'y a jamais eu de velléité d'en finir une bonne fois pour toutes avec les Juifs. Est-ce qu'en Occident, on sentait que l'existence même du peuple juif posait problème? Et c'est seulement quand le sionisme est apparu, quand l'envie d'avoir un pouvoir politique juif sur une terre, que là est apparu, dans le monde musulman, un discours génocidaire, un problème avec l'existence même du peuple juif. Tandis qu'avant, il fallait seulement que les Juifs soient soumis. Comment est-ce que ça s'explique, ça?
Alors,
Qu'est-ce qui a
si vous
changé?
permettez, il faut nuancer vos propos, parce que ce qui était humiliant dans la condition de la Dima, qui était la condition des Juifs en terre d'Islam, ce qui était humiliant, ce n'est pas simplement qu'ils soient des citoyens de second rang. Ce n'est pas seulement qu'ils aient une tenue obligée. Ce n'est pas seulement qu'ils doivent baisser la tête et céder le passage à un musulman. Ce n'est pas seulement le pacte, ce qu'on appelle le pacte d'Omar, avec toutes sortes de clauses. C'est que c'était un pacte de protection des Juifs. Or, il s'agissait de les protéger de qui? C'est ça la question. C'est ce que suppose la Dima qui est humiliant. Ça veut dire que les Juifs étaient théoriquement livrés à la foule musulmane qui pouvait se shooter au fanatisme sur leur dos n'importe quand. Donc le souverain musulman était tenu par ce pacte de les protéger. En revanche, sachez quand même qu'en Occident, l'idéologie chrétienne ne voulait pas en finir avec les Juifs. Il y a même des textes fondamentaux de saint Augustin et d'autres qui disent qu'il faut les maintenir dans l'opprobre pour qu'il soit prouvé que quand on refuse la grâce, on ne peut être que
C'est le
misérable.
peuple témoin.
Voilà, le peuple témoin. Ce qui d'ailleurs est absolument idiot, logiquement, parce que quand vous rabaissez des gens, tout ce que vous prouvez, c'est que des gens que vous rabaissez sont rabaissés. C'est tout. Ça prouve rien d'autre.
Là, vous parlez de la période médiévale, mais en tout cas, à l'époque moderne, à un certain moment, on a voulu en finir avec la question juive.
C'est
On a
l'idéologie.
voulu liquider.
Ça, c'est le nazisme,
C'est le produit de l'Occident.
produit de l'Occident, mais ce n'est pas. Il a profité du terreau chrétien, mais l'idéologie nazie, on ne peut pas la définir comme une sous-variante de l'idéologie chrétienne. C'est injuste. Ce n'est pas
C'est un
vrai.
retour au paganisme plutôt. Ouais.
À ce que vous voulez, mais il faut donc, une fois qu'on a bien mis ça au point, on revient à l'islam. Je ne pense pas, moi, que les mouvements djihadistes veulent exterminer le peuple juif. Si vous lisez les statuts du Hamas, le Hamas dit dans ses statuts, et dans cette terre pourront vivre aussi des juifs et des chrétiens, tenez-vous bien, sous la bannière islamique.
Donc c'est une question de pouvoir,
Soumission,
de
voilà.
soumission.
Il ne faut pas qu'il y ait un autre pouvoir que musulman. Et ils sont prêts à mettre le paquet, c'est-à-dire à tuer des gens, à tuer n'importe qui, des passants, etc. Comme ici. Et c'est ce qui se passe là-bas.
On va terminer simplement avec l'émotion qui a submergé la société, après d'abord en janvier, puis après les attentats de novembre. À chaque fois se mettent en place quand même des symboles, des rituels, voire une recherche presque de sacré. On a l'impression quand même que dans cette société totalement laïcisée, on a besoin de rapport à quelque chose de plus grand, de transcendant, de symbolique. Comment est-ce qu'on fait pour se rattacher à ça? Pour prendre en charge cette douleur, cette souffrance, qu'est-ce qui aujourd'hui peut encore. Est-ce que c'est le rôle de l'État d'organiser ça,
Je ne crois pas que ce soit le rôle de l'État, il fait ce qu'il veut, et de toute façon, les gens de l'appareil d'État, faites-leur confiance, s'ils voient que c'est rentable pour leur position, ils le feront, si ce n'est pas rentable, ils ne le feront pas. Par exemple, moi, je n'étais pas très d'accord avec l'idée d'interdire les rassemblements. Les gens se sont rassemblés, quand on est en deuil, on se rassemble automatiquement. Donc, ils ont transgressé cet interdit, et tant mieux. Et les gens on réagit. Il faut savoir aussi qu'il y a de l'impulsion vitale chez les individus. Il ne faut pas imaginer que nous, on est hyper vivants, puis que les individus, voilà, les gens. Mais pas du tout. Quand les gens sont allés dans les terrasses après, c'est pas seulement par bravade. C'est une façon très émouvante de dire, voilà, Il y a du deuil en nous et il y a du désir de vie en nous. Et nous sommes partagés, nous ne sommes pas clivés. Ce n'est pas qu'on louche un œil à droite, un œil à gauche, c'est qu'il y a les deux choses.
Mais est-ce qu'on peut se passer de religion pour prendre en charge ce deuil?
Mais la religion, vous savez, c'était au sens propre, la religion, c'est...
Ce qui relie les hommes.
C'est un type de lien. Or, d'ailleurs, le mot religion en hébreu est très problématique, douteux. Si on dit date, ça donne aussi la coutume. Alors, si on a, il faut créer des coutumes de fraternité, de rassemblement, de parole, etc. Et surtout, ne pas s'identifier à un même refrain qui est de l'idéologie, qu'elle soit religieuse ou pas. J'y suis très rétif parce que c'est du sirop, c'est un peu du shit, un peu de drogue. Et peut-être qu'on mérite mieux, qu'on mérite une pensée plus ouverte et plus risquée.
Voilà, j'invite tous les internautes à lire votre livre qui s'intitule « Islam, Israël, Occident, le grand malentendu », publié aux éditions Odile Jacob, et votre prochain livre sur Heidegger.
Alors, c'est pas vraiment sur Heidegger, mon livre qui vient de sortir, c'est mon 40e livre, il s'appelle
«
Qu'est-ce que voilà, 40 est un bon chiffre pour ceux qui traversent le désert, et il s'appelle « Question d'être ». Justement, il parle de la pensée de l'être, c'est-à-dire, pour moi, c'est la grande invention de la Bible, la grande découverte. C'est ce divin qui s'appelle l'être avec des permutations, c'est-à-dire ce qui a été, qui est, qui sera et qui est, se combine avec le temps, que on pourrait aussi appeler l'infini des possibles. Et ce livre montre quelque chose de scandaleux, c'est que, et il le montre en passant, c'est que, premièrement, il y a une pensée de l'être très profonde dans la Bible. Et deuxièmement, que la pensée de l'être contemporaine, moderne, impulsée par Heidegger, est entièrement ventriloquée par cette pensée de l'être biblique. Ça veut dire que ce Heidegger qui est passé par le nazisme, qu'il a été en fait assez longtemps, ce même Heidegger a cru apporter quelque chose de nouveau. Et il parlait le discours des prophètes et de la Bible sur
à son insu.
À son insu. Et en simplement en se posant lui-même comme le seul peuple élu. Et voilà en quoi il était fétichiste.
À lire, à découvrir donc, bientôt en librairie. Merci Daniel Siboni.
Merci.
Au revoir.